Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, c'est chaque semaine une joie de vous retrouver dès 13h ici sur votre radio. Dans le rétro, c'est accompagné d'un invité qu'on embarque pour un voyage spatio-temporel. Aujourd'hui, c'est un acteur, chanteur, auteur, compositeur. Il a passé sa vie à se planquer derrière des rôles. Depuis peu, il monte sur scène. Deux albums déjà, l'un en 2020, l'autre en 2023. Dans ses mélodies, il y a de la poésie, de la nostalgie. Dans ses mots, il y a la passion et la compassion. Il y a la douceur de vivre et parfois la douleur de survivre. Mon invité aujourd'hui, c'est Daniel Auteuil, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. À Alger que vous naissez, alors que vos parents Henri et Yvonne, artistes lyriques, sont en tournée. Départ ensuite pour Avignon. Alger, vous en parlez dans ce titre.
Quelque part à Alger, sous l'ardente lumière, à l'ombre d'un figuier, et embrasser ta mère.
Oh, je voudrais partir.
Il y a dans votre album cette envie de partir qui revient super souvent, cette fuite. Qu'est-ce qui fait fuir ?
Alors, il y avait une chanson magnifique de Gainsbourg, « Fuir le bonheur de peur », c'était quoi ? Qui ne se sauve. Moi, c'est le contraire, de fuir tout ce qui peut vous empêcher de vivre, quoi. C'est une force de vie, quoi.
Fuir la réalité, par exemple, la réalité de ce monde d'aujourd'hui,
Non, non, on ne peut pas la fuir, on n'a pas le droit, on est obligé de vivre à ce qu'on a, sinon on n'y arrivera pas. Mais fuir ce qu'on connaît déjà et qui n'était pas bon, ce n'est pas la peine de le revivre, voilà, ça veut dire ça.
Daniel Auteuil, enfant. Ouais, c'est vous, enfant. Vous avez le diable au corps, c'est ce que vous répète sans cesse votre mère.
Ouais, ouais, elle me dit, c'est quoi avoir le diable au corps?
Alors, c'est quoi justement avoir le diable au corps? C'est pas tenir en place, c'est quoi?
Oui, c'est ça, c'est de pas vouloir faire ce qu'on vous dit de faire, de pas être là où il faut être. C'est de savoir très vite dire non, mais d'avoir quelque chose de positif en échange à donner.
Difficile de dire non quand on est enfant et quand on...
Oui, c'est difficile.
Vivre avec ses propres règles, quoi, en sorte.
C'est difficile. Parce que je recevais, ma mère, à l'époque, elle était en prison maintenant, mais elle me battait, ma maman chérie. Elle me donnait des... Non, j'étais souvent corrigé, mais je la craignais. Alors, je craignais...
Autoritaire.
Autoritaire, c'est une
femme... Non, mais pas au point de vous frapper, si.
Ah bah si,
je croyais que c'était de l'ironie.
Non, frappait à l'époque.
Oui, à cette époque-là, c'est vrai les parents corrigeaient à coups de ceinturon aussi.
Mon grand-père me corrigeait à coups de ceinturon, mais on courait, c'était drôle, on riait, et ça nous faisait rire.
Télétransportation, on y retourne. Nous sommes à l'école primaire de la Rutière, à Avignon.
Voilà.
Vous êtes là, dans la cour de récré. Qu'est-ce que l'école, elle vous a apporté ?
L'école m'a apporté des très bons souvenirs. Elle m'a apporté la rigueur, un équilibre, la ponctualité, la discipline, la curiosité, l'instruction, le sens de la hiérarchie, les maîtres, cette liberté magnifique quand la cloche sonnait et qu'on sortait en hurlant de l'école, cette liberté retrouvée dans la rue. C'était une petite prison, c'était ça l'école. C'était nos blouses grises, c'était nos cartables, c'était l'odeur des crayons, c'était le goûter. C'était une époque douce où on pouvait rentrer chez nous à pied.
Vous parlez de prison et en même temps vous dites une époque douce. C'est étrange.
Oui, mais c'était une douce prison. Les enfants ont besoin de cette autorité-là. Aujourd'hui, on laisse davantage aux enfants le soin presque de choisir leur façon d'être enseignés. Nous, on nous enseignait des règles. Aujourd'hui, je m'aperçois, c'est-à-dire que les règles du bled, le bled d'orthographe et tout ça, ces choses-là, au fond, aujourd'hui, ces règles qu'on apprenait par cœur, ces tables de multiplication, tous ces trucs-là, aujourd'hui, c'est presque inutile. C'est une fausse impression d'apprentissage parce que on n'écrit plus à la main, on calcule avec des machines et tout ça. En revanche, il y a une autre façon d'étudier, d'être ouvert sur le monde qui est différent. Je pense qu'on avait une façon, on nous inculquait des choses un peu au forceps.
Strict,
un peu. Mais c'est des bons moments quand même. Mais quoique, je sais pas.
Ouais. Je me rappelle, Daniel Auteuil, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, vous disiez avoir des difficultés à l'école. Vous aviez même parlé de dyspraxie, un trouble des apprentissages qui peut avoir des répercussions sur la vie quotidienne, sur l'estime de soi aussi beaucoup. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, ce trouble-là, et comment vous avez surmonté ça?
Je pense que j'étais un autodidacte de la dyspraxie. Je savais pas que je l'étais. C'est quand plus tard, on a cru déceler chez mon fils, on a décelé pareil ce même truc, et qu'on a quitté l'enseignement normal pour aller dans une école comment ça s'appelle,
Montessori.
Oui, genre, c'est pas ça, mais c'est genre comme ça, quoi. Et en fait,
comment vous faisiez alors à l'époque? Parce que maintenant, effectivement, c'est diagnostiqué, on met en place des aménagements. Mais à l'époque, comment on fait?
On souffre. Hein, ouais. C'est-à-dire que on croit qu'on est un crétin, quoi. Et on doit l'être.
Non, justement, vous ne l'êtes pas.
Non, mais on perd confiance en soi. Et on devient, si on est curieux, après, on devient on devient un autodidacte. Mais d'être autodidacte vous enlève à vie, je pense, une assurance que l'enseignement. Moi, par exemple, si on m'avait pris au conservatoire d'art dramatique, j'aurais pas attendu presque 40 ans avant de jouer une pièce classique. Je pensais que j'y avais pas droit, quoi. Ouais. Enfin, je crois aux vertus du travail, moi, quand on n'est pas doué.
Ouais, faut bosser. Bosser. Nous sommes chez vous, vous êtes encore jeune, vous parlez avec votre maman, elle vous demande ce que vous aimeriez faire. Vous lui répondez du théâtre. Elle préférerait que vous choisissiez un métier plus stable, employé de banque par exemple. Pour elle, le théâtre c'est difficile, c'est pas un métier sûr. Vous qui avez peur de décevoir, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas écouté votre mère à ce moment-là, justement pour pas la décevoir?
Il s'est passé, j'ai eu un accident de voiture à 18 ans et cet accident m'a totalement déstabilisé. À partir de ce moment-là, tout de la vie me fait peur. Et effectivement, le rêve de ma mère de vie stable, tout ça, je l'adapte. Et je veux, oui, travailler dans un bureau, je veux faire ça, ça. Mais elle, entre-temps, elle a fait le chemin inverse. C'est-à-dire que comme elle a failli me perdre, elle m'a vu dans une pièce de théâtre, elle sait que c'est ma passion. Elle avait dit à mon père, tu sais, je crois que le petit, il a quelque chose. C'est elle qui va me pousser à partir, finalement.
Vous dites, il suffit qu'on me décourage pour que ça m'encourage.
On va me décourager, mais plus que découragé, je vais être au quatrième sous-sol, désespéré. Mais j'ai un caractère qui fait que je ne vais pas renoncer, que je vais rebâtir pierre par pierre et recommencer. J'ai ce caractère-là.
La peur de décevoir, c'est un sentiment assez présent chez vous. Ce sentiment, il pousse les gens à s'excuser.
Un garçon de 17 ans voudrait dire à ses parents, ses parents, je ne veux pas de votre vie.
Pardon, pardon, pardon.
La ferme et tout ce qui s'ensuit.
Tant pis, tant pis, tant pis.
Vous m'avez fait tel que je suis.
Merci, merci, merci.
Avec ça, je ferai ma vie.
Il y a la culpabilité dans ce morceau. Il y a la peur de décevoir. Il y a le pardon. Et il y a la gratitude. J'ai pas fait ce que vous vouliez. Je m'excuse, mais merci. Votre maman, vous l'avez finalement remerciée?
Oui, je n'ai eu de cesse que d'exceller en toute chose, tout le temps, de leur ramener tous les prix que j'avais pas à l'école, de avoir des médailles que me donnaient les présidents, de tous les trucs. Tant qu'ils étaient là, j'étais un rameneur de médailles et de prix. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, oui.
Avant de partir, votre maman vous a dit « je veillerai sur toi ».
Ouais.
C'est une façon de rester vivant dans l'esprit de ceux qui restent. Est-ce que ça aide à mieux vivre l'absence?
Et en fait, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors, ils sont là. Elle est là, par exemple, dans les arbres qu'elle a plantés, dans les fleurs qu'elle a plantées. Elle est l'arbre. Et ils sont là. J'ai pas fait ou pas. Je sais pas. Ça s'appelle faire le deuil. Je sais pas ce que c'est. Ça s'est fait en douceur, mais ils sont vraiment présents.
Ces mots, ils sont importants. Je veillerai sur toi.
Oui, ça oui, c'est très important. Oui, oui. Mais je me souviens de cette phrase qu'avait dit Mitterrand, vous savez, le président du XXe siècle, je rappelle aux jeunes.
Qui ça?
Mitterrand, François Mitterrand.
Pas.
Bref. qui avait dit, je ne vous quitte pas, je veillerai sur vous, je crois aux forces de l'esprit. Alors là, on est en plein mysticisme. Mais je pense que les gens qu'on aime sont toujours, tant qu'on pense à eux, ils sont là. Voilà, je pense
à... Daniel, vous avez vachement changé, hein, parce qu'il y a 2 ans, quand je vous ai reçu, vous me disiez « Non, mais si on parle de ça, je vais passer pour un fou ». Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'écriture de cet album vous a un peu réconcilié aussi avec toutes ces choses qui peuvent nous permettre de nous raccrocher à quelque chose, en fait.
La différence qu'il y a entre la chanson et être un acteur, c'est que quand tu es un acteur, il y a une espèce de quatrième mur que tu peux pas abattre, parce que sinon, le public croit plus que tu es le personnage. Mais là, c'est moi, je viens raconter mes histoires. Mmh. Et au fond, oui, je me dévoile davantage, mais de façon, j'espère, pudique et poétique.
Ouais, voilà. Ouais. Mais ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien. Et surtout, le truc qui fait le plus de bien, c'est le sentiment de savoir qu'on est entendu et qu'il y a une espèce de réciprocité qui se passe comme ça.
Et qu'on est comme tout le monde, en fait.
Oui, mais ça, je savais. Moi, j'étais comme tout le monde.
Oui, sauf que tout le monde ne le perçoit pas de cette façon-là aussi.
Oui. Non, mais moi, j'ai toujours.
Donc là, ça permet aussi de reconnecter, de se reconnecter avec l'essentiel, avec les gens, avec le public.
Ouais, avec des sentiments, en tout cas, avec des valeurs, des mots qui nous font du bien. Ouais.
Changement d'époque, on remonte le temps, vous avez 19 ans. Bon, alors là, la voiture, elle date un peu, elle est un peu vieille. On est sur la route qui mène à Paris, mais en fait, c'est une 3 chevaux à mi-6.
Oui.
Y a votre pote Roger Miremont dans le coffre, des pastèques, des confitures que votre maman a préparées. Vous vous installerez rue Ganneron dans le 18e à Paris, en coloc avec 2 copines danseuses de l'Opéra d'Avignon. Quelques temps plus tard, en 72, première audition pour la comédie musicale Godspell. Ça donnera ça.
Notre Père, écoute-nous. Supplions à genoux, humblement nous avons tout, pitié pour nous.
Ça, c'est la chanson que je chantais, sur scène, mais les Américains ne m'ont pas laissé l'enregistrer. C'est Grégory Ken du groupe Chagrin d'amour qui fait ça.
Mais sur scène. Mais oui, parce que, excusez-moi, je vous interromps, mais juste pour dire, en fait, à l'image, c'est vous qui chantez, mais je me dis, mais c'est pas la voix de Daniel Auteuil, on est d'accord.
On est d'accord. C'est ma première grande frustration.
Ah ouais?
Bah oui, c'est très...
Ouais.
Franchement, moi, j'ai pas aimé.
Quand vous travaillez votre tour de chant, vous demandez à votre père de venir sur Paris. Lui étant chanteur lyrique, c'est à ce moment-là qu'il découvre à quel point vous pouvez être angoissé. Vous faire du souci.
Ah oui. J'ai toujours été... je devais commencer la pièce avec un rap, je l'avais fait venir pour qu'il m'aide à maîtriser cette rythmique-là. C'est-à-dire que je suis très fort pour inventer un problème où il n'est pas et le faire énorme.
Je vous propose d'allumer la radio. C'est l'émission Le Tribunal des flagrants délires sur France Inter. C'est votre première interview.
Ça vous a pas donné envie de faire un groupe de rock?
J'en crève d'envie. Mais bien avant ça, mon grand regret, c'est de pas être un chanteur de rock.
Vous auriez aimé
mais,
ça?
Mais ma foi, si vous voulez.
Vous auriez aimé être chanteur de rock?
Ah, je sais pas, j'aurais aimé être une idole, ouais. Une idole de la chanson, ouais. Ah, ouais, ouais.
Et pourquoi pas une idole de l'écran?
Ça va venir, ça.
Ça, c'est le...
C'était il y a plus de 40 ans. Hein.
Ah ouais, ouais. C'est le culot des gens timides, mais quand même ambitieux. J'avais envie de... Mais vous voyez, le désir de la chanson était là déjà.
Ouais.
C'est fou d'y retrouver ça.
Et ouais.
J'avais oublié ça. Savais que j'ai envie depuis toujours, mais je ne savais pas que je l'avais formulé.
Ça donne encore plus de valeur à ce que vous faites aujourd'hui. Dans la musique.
Je me rends pas compte parce que j'arrive pas moi à me projeter à savoir qui je suis, qui je représente. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais juste que je suis un homme heureux de faire ce métier, de sortir un disque, de faire des concerts, d'être entouré de très bons musiciens, de pouvoir écrire de la musique, de pouvoir écrire des mots et que les gens aiment ça. J'ai aboli toutes les notions de temps, en fait, et c'est ce qui fait que j'ai ce culot-là, quoi. Je suis lucide, je sais l'âge que j'ai, mais je m'en fous.
Ça s'est joué à peu, finalement, entre une carrière d'acteur et de chanteur?
Écoutez, c'est très bien que j'ai fait l'acteur, franchement.
Ouais. Mais pourquoi vous dites ça?
Parce que c'était magnifique, tout ce que j'ai traversé. J'ai tourné avec les plus grands auteurs, les plus grands metteurs en scène. Et j'ai la chance de continuer. La chance que j'ai, c'est d'avoir encore du succès dans le cinéma. Et grâce à ça, de pouvoir faire de la musique. Voilà, donc je suis comblé. Est-ce que j'aurais voulu commencer plus tôt? Je sais pas, le principal, c'est d'avoir commencé, quoi.
On part maintenant en 1984, le 21 avril.
et que la vie me pardonne. Si je ne sais pas toujours comment la vie, oh stop, y'a plus que l'ennui qui reste. Je tourne des pages où y'a plus rien à lire.
Oui. J'aime bien, moi.
Ben moi aussi,
stop.
J'aime. Non, j'aime bien. C'était une chanson écrite par Renaud de Tressan.
Nous sommes sur le plateau de Champs-Élysées, émission sur Antenne 2. Vous chantez Que la vie me pardonne. Et allez, encore une fois, vous demandez pardon. On évoquait justement tout à l'heure le titre Pardon, pardon sur votre nouvel album. Vous avez l'impression de vous excuser beaucoup trop dans la vie ou pas?
Oui, sûrement, sûrement. Longtemps, un manque de confiance, bien sûr. Face au regard des autres, c'est face à une légitimité qu'on cherche. Encore une fois, je vous dis, c'est le problème de l'autodidacte, quoi. C'est, au moment où je suis en train de sortir cette chanson, je suis en train de tourner Jean de Florette, je sais pas ce qui va se passer. Il faut passer son temps, de toute façon, à prouver aux autres et à soi-même pour être tranquille.
Sans forcément devoir s'excuser quand même en permanence.
Oui, mais je m'excuse plus du tout aujourd'hui.
Ah ouais, plus maintenant?
Ah bah non, plus du tout. Je dis non, plus du tout.
Et est-ce que quand vous pardonnez, par contre, vous êtes du genre à oublier?
Non.
Ah ouais?
Ah non, je peux pardonner, mais oublier, non. J'ai une très très bonne mémoire. Je peux retrouver un type qui m'a fait une saloperie il y a très longtemps, et je sais plus tout à fait pourquoi. En revanche, aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à ces trucs-là, c'est que je n'en veux plus jamais à l'autre de m'avoir fait une saloperie ou de pas avoir tenu parole, tout ça. Je m'en veux à moi de l'avoir cru. Et c'est plus simple et c'est mieux et ça règle les problèmes et comme ça on passe à autre chose.
Ouais. La musique, vous allez la délaisser pendant de nombreuses années. C'est au théâtre et au cinéma qu'on vous voit. Les Soudoués, Jean de Florette, Manon des Sources, Le Huitième Jour, Le Placard, 36 Quai des Orfèvres, Le Brio, Rémi sans famille, La Belle Époque. En France, on dit qu'on est souvent mis dans des cases, qu'on a des étiquettes. De quoi on a besoin pour s'affranchir de tout ça?
Prouver le contraire dans un autre genre. C'est-à-dire que je suis passé de comédie des 10 premières années de ma vie de jeune comédien dans des films comiques. Pouvoir passer à des films dramatiques, ça a été un truc où il a fallu encore prouver. C'est passé par des séries B, des trucs jusqu'au moment où on arrive à convaincre les autres. C'est convaincre les gens de ce métier d'abord, le public, les gens des médias. Et puis, ma première vraie grande réussite pour moi, c'est d'avoir pu librement choisir et alterner les genres. Passer d'une comédie populaire à un film d'auteur, un film sombre, un film gay. Vous voyez, je veux dire, je suis libre de ça.
Téléportation. Nous sommes avec votre fils. Vous avez voulu qu'il se mette à la musique. Vous lui avez donc acheté une guitare. Alors, il est gaucher comme vous, donc vous allez inverser les cordes. Vous lui faites prendre des cours avec un prof et vous y participez pour l'encourager. Ce temps que consacre un père à son fils, il est précieux. On entend beaucoup de parents dire « je ne passe pas assez de temps avec mes enfants ». Vous l'avez dit aussi, c'est quelque chose que vous avez pu penser aussi?
Je pense que c'est une question de temps dans la tête, d'être disponible. Le sentiment de plus avoir à courir ou d'avoir, entre guillemets, réussi professionnellement fait que on est plus ouvert aux autres et à ses enfants. Donc, j'ai jamais su transmettre parce que je l'avais pas appris, je le savais pas expliquer telle église, elle est romane, elle était faite comme ça. J'avais des copains qui savaient vachement bien faire ça, ça m'impressionnait. Ils avaient toujours un truc à dire sur quelque chose et moi, j'avais rien à dire. À part l'amour, mes filles et mon fils, à part, on est allé au cinéma, on a écouté de la musique. Je leur ai apporté ce que je recevais et ce qui me faisait du bien. Je pensais que ça leur ferait du bien, voilà.
Mais vous dites, c'est l'amour que vous avez aussi transmis, c'est ça le plus important?
Je pense que c'est ça. Mes parents m'ont transmis cet amour. Et malgré tout, je parle souvent du manque de confiance. Mais je pense que j'ai eu une foi absolue en moi pour pouvoir, malgré tout ça, faire tout ce que j'ai fait. Il me semble. Hein. Mmh. Et ça, c'est l'amour qu'on m'a donné.
Ça donne de la force.
Ouais.
Ici, dans le rétro.
Daniel Auteuil, il y a quelques années, vous vous mettez à poser des accords de guitare sur des textes, sur Voltaire par exemple. Vous faites des chansons sans le savoir, naîtront ensuite deux albums. Le dernier est sorti le 18 mars 2023, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Premier album, lui, sorti en 2021. Le 17 septembre, vous sortez Si vous m'aviez connu, sur lequel il y a ce titre.
Laissons à la belle jeunesse ces folâtres emportements. Nous ne vivons que deux moments, qu'il en soit un pour la sagesse. Quoi pour toujours vous me quitter, tendresse. tendresse, illusion et folie. Don du ciel qui me consolait, des amertumes de la vie.
Vous imaginez dans les années 60, 70, 80, ce slow là?
Oh là là.
Vous imaginez, on dansait là, comme
ouais,
ça.
Ouais, le et quart d'heure américain, je vous ouais. aurais invité. Ouais. C'est des filles qui invitaient ouais, les ouais. garçons.
Et à mon avis, c'est... enfin bon.
Parce ah que... bah, à mon avis, on pouvait pécho, comme on dit.
Bon,
sur
bref.
Un slow comme ça. Ah ouais. C'est emballé. Vous vouliez dire quelque chose,
ben
je vous interromps. Ah bah voilà, bah donc je l'ai dit pour vous.
Ah oui, il vaut mieux.
Si vous voulez que j'aime encore, c'est un poème de Voltaire pour ouais. sa maîtresse, Madame du Châtelet. Un poème pour lui dire avec élégance qu'avec le temps, l'amour fait place à l'amitié et que son désir pour elle décline. C'est pas anodin si vous choisissez de mettre en musique ce poème.
Sauf que j'avais pas compris au départ que c'était ça. Mais en fait, c'était pas vrai. Comme il savait pas comment la quitter, il lui disait je peux pas, j'y arrive plus, tout ça. Et en fait, c'est pas vrai, c'était pour aller en voir une autre. C'était un coquin, Voltaire.
Quelle lâcheté.
Hein ?
Quelle lâcheté.
Ah oui, oui, bah c'est un homme.
Ah bah voilà. Claudel disait chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Vous disiez tout à l'heure, quand vous composez, vous êtes heureux. Donc vous n'avez pas le cœur trop plein, ou alors trop plein peut-être de bons sentiments ?
Si, si, c'est trop plein, parce qu'il faut que ça sorte, effectivement. Mmh. Je pense que c'est cet équilibre que j'ai trouvé qui me fait du bien, de ne pas sombrer dans le passé, la nostalgie, et de faire de ce que j'ai rêvé, en faire des chansons, et de faire des chansons du présent. Quoi. Je pense que c'est une chance de pouvoir transformer sa vie en présent.
L'amour, vous en parlez dans votre deuxième album.
Je sais, on s'était dit, on s'était dit. À nous deux, Paris.
À cause d'un baiser, c'est le titre. On s'était dit, on s'était promis. L'amour, c'est des promesses qu'on tient pas.
Chirac disait, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais c'est très cynique. Non, non. L'amour, il n'y a pas de cynisme dans l'amour. Surtout à 20 ans. Et quand on dit à quelqu'un, je t'aime, c'est forcément pour la vie. Sinon, on pourrait pas. Chaque fois, c'est pour la vie. Sinon, c'est pas possible. Et donc, oui, ces promesses que deviennent ces promesses, ça devient des regrets, oui.
C'est possible d'aimer toute une vie ?
La même personne, oui. Mmh. Oui, c'est ça. Oui, oui, sûrement. Mes parents se sont aimés toute leur vie, oui. Oui, oui, c'est possible.
Rose ne m'en veut pas, ne m'en veut plus. Il y a encore ce besoin d'être pardonnée. Ouais. Finalement, dans ces paroles, il y a de la culpabilité. Est-ce que c'est un sentiment avec lequel vous avez du mal à cohabiter ?
Non, non, pas du tout, pas du tout.
Non
enfin, si, enfin, il y a plein de choses qui me rendent coupable, mais qui ne sont pas de mon fait.
Mais quel rapport vous avez avec la culpabilité, justement ?
Ben, par exemple, quand je vois sur les murs de Paris tous ces petits-enfants juifs ont été embarqués, tout ça, quand je vois des images à la télévision de violence, je ne suis pas quelqu'un d'engagé, mais je suis quelqu'un qui, dans sa chair, souffre de trop de lucidité. Oui, je suis coupable du fait des autres, oui, oui. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... voilà, le désordre du monde me pétrifie.
L'amour, vous le mettez en chanson, mais l'amour, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Il est quoi ? Il est vital, il est dur à vivre, il est passionnel, apaisé, compliqué ?
Il a été tout ça, il est tout ça, il est aujourd'hui grâce à Dieu, enfin grâce à nous, il est, comment vous avez dit, il y a un truc qui était bien.
Apaisé.
Mieux que ça.
Vital.
Vital.
Passionnel.
Passionnel. Enfin, il est
dur à vivre, pas terrible, et compliqué, non, pas terrible pas... non plus. Hein.
Non, 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 il est vital, il est indispensable, il est, oui, oui. Mais pour tout le monde, et depuis toujours, et pour toujours, je pense.
Qu'est-ce qui peut tuer l'amour ou mettre fin à une histoire ?
La trahison, le manque d'intérêt, de curiosité, l'habitude, le...
La routine ?
La routine... Je sais pas, il y a quelque chose de très beau dans les choses du quotidien. Il faut juste en faire chaque fois une espèce de cérémonie. Mais j'aime l'idée que les choses recommencent.
Rassurant.
Plus que ça, en fait, ce que je pense, c'est que, je peux plus le dire, j'ai l'âge, pour que les choses de l'amour durent, il faut du désir pour que ça dure. Il faut, je crois, être attentif tout le temps à l'autre et savoir être à l'écoute tout le temps et savoir, je pense, mais ça, il faut du temps, savoir, pas faire des concessions, mais mais savoir changer ses priorités, donner les priorités aux autres, voilà. Ne pas se bloquer sur des trucs.
L'amour, c'est celui aussi qu'on porte à nos enfants, à nos parents. Cet album, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour, c'est aussi un père qui parle à son fils et un fils qui parle à son père. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque avec ma question, mais vous avez perdu votre papa, je crois, en 2005. Vous avez un petit garçon ensuite en 2009. Est-ce que c'est la perte d'un père ou la naissance d'un fils qui vous a donné envie de chanter et d'écrire?
Je me souviens
en avoir
de...
peut-être.
Ouais, si, je me souviens de Claude Berry, vous savez, le grand producteur et metteur en scène, notamment de Jean de Florette, qui avait écrit un livre de souvenirs. Il avait un amour insensé pour son père par rapport à ses enfants. Il disait, au fond, je n'ai jamais été père, je suis resté un fils. Ça m'a questionné et je me suis posé la question. Et non, je suis un père, mais j'ai une bonne mémoire et d'avoir été le fils aimé que j'ai été me permet d'écrire. Oui, vous avez raison.
Embarquement pour le futur maintenant, destination 2033. Daniel Auteuil, vous êtes là, assis, seul, face à vous-même. Vous repensez au temps qui passe, à votre vie, à ceux qui sont là, ceux qui sont partis. Qu'est-ce qui vous manque en 2033 du temps passé?
2033, j'ai quel âge?
83.
Ah, 80. Ah, ça va. Bah, je demande à Universal s'ils veulent bien produire encore un disque et si les Robins veulent bien préparer une tournée d'adieu.
On termine en musique maintenant notre voyage. La Bohème de Puccini. Vous avez grandi avec Bizet, Puccini. Terminons avec les paroles de votre titre, Il regardait la pluie. Si j'avais à renaître, pourrais-je faire mieux? Pleurait un vieux monsieur assis à sa fenêtre. Ce vieux monsieur, on s'imagine que c'est vous. Alors je vous repose la question, Daniel Auteuil. Si vous aviez à renaître, est-ce que vous pourriez faire mieux finalement?
Je pense que non. Je me souviens de mon père qui me disait... profite, mon fils, profite. Et je disais, mais papa, je suis à fond, je peux pas faire plus. Non, je pourrais pas. J'essaierai de faire mieux, mais c'est déjà pas mal.
Merci Daniel Auteuil.
Je vous en prie.
Je vous ai trouvé vachement bien.
Bah, tant mieux.
Serein, posé et tout, épanoui, non?
Écoutez, ça sert à rien de venir ici et de raconter des mensonges.
Ouais, mais ça fait du bien, non?
Ah oui, très bien, je suis très...
Mais pas par rapport à cette émission, moi je vous dis ça parce que je vous trouve vachement, depuis que vous faites de la chanson, de la musique, je sais pas, il y a un truc qui a changé, je peux pas vous dire quoi, mais je trouve que, ouais, vous avez l'air bien, quoi.
Eh ben tant mieux, mais parce que je le suis, non, je le suis. Non, je suis un peu... c'est toujours gênant parce que je prends ça comme un beau compliment, donc je sais pas quoi vous dire, je suis content que vous ressentiez ça.
Ouais, enfin, vous êtes prêt à partir déjà, vous
ah,
vous
non,
éloignez
non,
du micro.
Non, je bois pas. Ah, pas du tout, je bois.
Non, mais je vais vous laisser, c'est pas
non,
grave,
non, non,
mais
non.
Vous reviendrez. Merci à vous, Daniel Auteuil.
J'en prie, merci.
De rien. Daniel Auteuil, on vous retrouvera cette année au cinéma dans un film aux côtés de Meryl Streep. C'est pas dégueu quand même, il y aura aussi Virginie Efira. Ce film, c'est Vie privée, tourné fin 2024 entre Paris et la Normandie. Dans le rétro, merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas déjà abonné, allez-y, l'émission est disponible en podcast sur l'application Ici et sur toutes les plateformes. Passez un super bon week-end, prenez soin de vous, salut.